Théologie en liberté. Au micro, Joël Baumann.
Michel Bertrand.
Bonjour Michel Bertrand, vous êtes pasteur, professeur de théologie. Et nous sommes ensemble pour parler du religieux et du politique. Confrontation, lien, souvent relation difficile. Nous sommes à notre troisième émission. Et nous étions partis de cette théologie des deux règnes de Luther qui font que le croyant doit peut-être avoir les yeux au ciel, mais être bien enraciné, avoir les pieds bien au sol, avoir en quelque sorte une double citoyenneté.
Tout à fait. Exactement ça. En effet, le chrétien est citoyen de ce monde. Le chrétien est citoyen de ce monde qu'il est appelé à construire, donc sa participation à la vie de la société est même une des modalités de la mission que Dieu lui confie. Du fait de cette citoyenneté qu'on pourrait appeler séculière, le chrétien se sait responsable de l'espace public, de sa définition, de son aménagement, de son maintien. Les églises ne doivent certes pas prétendre imposer leur vue, ni d'éventuels programmes aux responsables de la société, mais ce que parfois les chrétiens ont été tentés de faire, vous savez, la démocratie chrétienne, on apportait des programmes clés en main.
Des partis, oui.
Oui, des partis chrétiens, ça on faisait de la politique, c'est-à-dire qu'on déduisait de la Bible un programme social. Alors c'était très lié, notamment dans les pays catholiques, avec la théologie traditionnelle qui disait que l'Église est experte en humanité. C'est-à-dire qu'elle est experte dans tous les domaines et donc elle était légitime à donner un programme en quelque sorte politique. Mais ça n'est pas en tout cas la lecture que l'on trouve dans les écritures bibliques et telle que en tout cas la réforme protestante se les est appropriée. Les églises donc ont à encourager les responsables politiques dans leur mission à le faire de façon constructive, leur en rappeler aussi l'importance et la noblesse. Prier pour eux, en tout cas dans nos cultes protestants, on prie pour les autorités. Également, accompagner celles et ceux de leurs membres qui ont choisi cet engagement comme service de la communauté humaine. Je le dis parce que parfois, les fidèles qui ont choisi de faire de la politique, pas forcément en y mettant leur foi et leur conviction religieuse, mais qui l'ont fait au nom de leur foi, ont du mal à trouver leur place dans l'Église. Et je pense que c'est aussi un des rôles des Églises, des religions, de manière générale, que d'accompagner ceux qui ont compris que servir son prochain à travers l'engagement politique, c'était une noble cause. Mais par ailleurs, donc, à côté de cette, ou en même temps que cette citoyenneté séculière, les chrétiens se savent citoyens du royaume. Ils sont, dit l'Épître aux Hébreux, des étrangers et des gens de passage sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette position d'étrangers et voyageurs sur la terre les rend libres à l'égard des réalités du monde dont ils savent bien qu'ils ne peuvent pas tout attendre et en tout cas pas le sens ultime de leur existence. On ne demande pas aux politiques de nous donner le sens ultime de notre existence. C'est pourquoi ils ont vocation à nourrir le débat sociétal de manière constructive, je l'ai dit, mais ils ont aussi à, en quelque sorte, à y introduire du jeu, à apporter des questionnements critiques dans la vie citoyenne, mais précisément pour que le pouvoir temporel ne se pose jamais comme un absolu incontestable. On en a vu les dangers. Au fond, cette double citoyenneté dessine le visage déjà d'une forme de laïcité dont bien des penseurs, et pas seulement des théologiens, ont vu à juste titre les prémices dans la Bible.
Ils sont légitimes, les croyants, pour influencer la vie publique, pour apporter quelque chose
de neuf. Bien sûr, peut-être qu'on en parlera davantage à propos de leur place dans l'espace public,
d'accord.
Mais ils ont effectivement à interroger le politique quand il pense que il y a des atteintes portées à la dignité humaine, quand il pense qu'au niveau éthique... En tout cas, ils ont une voix à faire entendre.
Ouais.
Ça ne veut pas dire qu'ils veulent l'imposer, mais ils ont à la faire entendre.
Alors, vous venez de dire que cette double citoyenneté On en voit les prémices dans la Bible. La laïcité se trouverait dans la Bible.
Oui, alors la laïcité ne se trouve pas telle qu'elle dans la Bible, pas plus que dans la théologie de la Réforme, mais on en voit des prémices. En tout cas, il y a des bases théologiques et anthropologiques qui permettent de la prendre au sérieux. Mmh. En tout cas, ce qu'on voit clairement dans la Bible, c'est qu'il y a une distinction entre religion et politique, sans séparation et sans confusion. Et il y a entre les deux une articulation. La Bible témoigne en effet, et ça c'est fondamental, d'une désacralisation de l'univers. Et un penseur comme Marcel Gaucher considère à ce titre qu'elle a été l'une des sources du grand mouvement de laïcisation qui caractérise la modernité. Ce qu'il a appelé, à la suite de Max Weber, le désenchantement du monde. On vivait dans un monde enchanté avant l'arrivée du judéo-christianisme. C'est-à-dire qu'il y avait, du Dieu partout.
Oui.
Dans les arbres, dans les animaux.
Oui, enchanté dans ce sens-là.
Il y avait une sacralisation de l'univers. Oui. Donc dès lors que c'est sacré, c'est aussi intouchable.
Oui, oui.
Désormais, le monde échappe à l'emprise des religions. Il est, confié par Dieu à l'homme.
Oui. C'est vrai que le premier chapitre de la Bible, par exemple, Genèse 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », on y lit la création d'un monde dont tout est profane, les astres, le soleil, la lune, qui à l'époque de la rédaction, dans le contexte babylonien, sont vénérés comme des divinités. Ici, dans ce texte, sont remisés à la simple et vulgaire place d'instruments de mesure du temps. Plus rien de sacré, hormis le vivant, l'humain, l'animal, créé le même jour que les autres animaux. Mais l'humain créé à l'image de Dieu, c'est en cela qu'il est saint, qu'il est mis à part. Mais tout le reste est profane. C'est assez, assez étonnant. Tout le reste est laïque, on dirait.
Oui, tout à fait.
Mais revenons donc à cette laïcité. D'après vous, et vous avez eu l'occasion de l'exprimer plusieurs fois dans cette émission, la laïcité, et vous allez nous la définir à nouveau, est absolument indispensable.
Oui, je pense que c'est qu'effectivement, cette posture, ce cadre laïque est un cadre fécond et possible qui permet d'articuler le religieux et le politique en faisant droit à la responsabilité de l'un et de l'autre, sans qu'il y ait une séparation totale, mais sans qu'il y ait non plus, ce qui est peut-être encore plus dangereux, une confusion totale. En même temps, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle laïcité. La laïcité, c'est celle que je viens de décrire, même là, à partir des données bibliques. Ça veut dire qu'on ne saurait réduire la notion de laïcité à la seule situation spécifique de la France. Vous savez, les Français, vous entendez dire, ah oui, nous, on est un pays laïque. Il y a bien d'autres pays dans le monde qui vivent sur un régime laïque, même s'ils n'ont pas la laïcité à la française. En effet, ce mot désigne plus largement et plus simplement, la fin du pouvoir des religions sur les individus et sur la société. C'est-à-dire l'avènement d'un espace public autonome organisé selon les seules logiques séculières. La laïcité, c'est un long processus, comme je disais tout à l'heure, elle n'est pas telle qu'elle, bien entendu, ni dans la Bible, ni... c'est un long chemin, mais qui est fait d'étapes. La laïcité est le fruit d'un processus historique au cours duquel les sphères politiques, juridiques, scolaires, médicales se sont peu à peu émancipées de la religion. Cette libération, au fond, à l'égard des tutelles religieuses, a débouché au cours de l'histoire sur des événements et sur des dispositifs législatifs qui sont divers et qui sont propres à chaque nation. En France, ça a pris une tournure particulière. Oui. Pour des raisons historiques, la laïcité s'est constituée de manière particulièrement conflictuelle. Et ça, ça emporte toujours la trace avec le catholicisme de l'époque. Du coup, elle est parfois comprise à tort comme une idéologie anticléricale et anti-religieuse, qui est d'ailleurs souvent invoquée par certains pour récuser toute expression publique des religions dans la société. Mais c'est un contresens.
Oui.
En 1905, quand il y a eu la loi de séparation des Églises et de l'État, il y avait plusieurs modèles qui étaient proposés. Et c'est le modèle le plus modéré et le plus libéral qui a prévalu, celui de Jaurès, celui de Briand. Mais certains aujourd'hui rêvent encore des modèles anti-religieux qui avaient été proposés à l'époque et qui ont été refusés. Alors, il peut y avoir un débat sur ce qu'est la laïcité, mais en tout cas, celle telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un modèle extrêmement libéral. Ce qui veut dire que même dans notre pays, si on s'en tient au texte fondateur, la laïcité n'est en rien hostile à des contributions possibles des religions dans l'espace public. Car si l'État est laïque, la société et son espace public ne le sont pas. Ça, il faut le rappeler sans cesse. L'État et ses services publics sont laïques, mais l'espace public et la société ne le sont pas.
Oui, les religions ont donc la possibilité de s'y exprimer, mais peut-être elles ont aussi le devoir de s'exprimer. La laïcité donne le cadre, les limites, mais aussi des droits pour la religion, et les religions pourraient utiliser ces droits dans le champ social et politique.
Oui, c'est pour ça que, compte tenu des convictions bibliques et théologiques que nous avons partagées, que j'ai développées, je considère personnellement, comme chrétien, que la laïcité au sens large, et telle que nous venons de la décrire, constitue un modèle pertinent de relation entre religion et politique. Elle permet de distinguer les deux domaines sans les séparer totalement, tout en évitant leur dangereuse confusion. La laïcité articule de manière féconde le spirituel et le temporel, tout en garantissant la liberté du croyant et l'autonomie du politique. En assurant la neutralité de l'État et de ses services publics, la laïcité protège la société des tentations hégémoniques, voire théocratiques des religions. Mais du coup, elle contribue aussi, presque un effet collatéral, à protéger les religions elles-mêmes de leurs éventuelles dérives d'intolérance. Elle garantit également la non-ingérence de l'État dans les convictions spirituelles ou théologiques des religions, ce qui est aussi tout à fait fondamental.
Ah ouais. Donc les religions en tirent aussi un bénéfice. Absolument. Ce que nous verrons après une pause. Nous nous retrouvons. Vous êtes sur Radio Alliance Plus, vous écoutez Théologie en Liberté, le pasteur et professeur de théologie Michel Bertrand et moi-même, Joël Baumann. Nous nous retrouvons autour de cette question de la religion et du politique, la laïcité aidant à cette proximité et à cette relation, recadre cette relation entre religieux et politique. Et nous étions en train de dire que la religion tire un certain bénéfice à ce que l'État soit neutre et protège la religion.
Mmh. Oui, ce qui veut dire, parce que c'est des travers dans lesquels, y compris dans notre pays, on tombe parfois, la laïcité n'est d'aucune manière une idéologie restrictive et punitive. Mmh. Mmh. La laïcité, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une valeur. La laïcité, c'est un dispositif législatif qui organise le vivre ensemble en séparant, en distinguant, mais en articulant le religieux et le politique. Ça veut dire que la laïcité est fondamentalement un dispositif de liberté et pas de punition. Elle introduit et maintient dans la société la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d'avoir ou pas une religion, la liberté d'en changer.
Elles ont des droits, mais aussi des devoirs.
Bien sûr, parce que les religions, quant à elles, doivent respecter les autorités civiles et même les soutenir leurs actions, dans la mesure où elles participent du service du prochain, et notamment des plus faibles. Elles ne doivent pas chercher à imposer au monde leurs convictions, leurs programmes, ni dominer l'ordre temporel au nom du spirituel, au nom de leur foi. Mais par contre, dans le respect de ce cadre laïque, elles ont la liberté d'exprimer publiquement leurs croyances et leurs points de vue. Mmh. D'ailleurs, la loi de 1905, il est bien question du libre exercice public du culte. On s'étonne même que parfois on nous parle, on dise la religion est une affaire privée. Non, la loi, elle est d'abord pour organiser le libre exercice public du culte. Et si elle précise à condition de respecter l'ordre public, c'est bien parce que ça se passe en public.
Ouais.
Parce que si c'était purement privé, ça risquerait pas de contrevenir à l'ordre public.
Ouais. Donc si je résume, non seulement la laïcité donne le cadre, les limites, mais aussi des droits pour une religion d'être présente dans le champ social et politique, dans la société, être présente socialement. Mais celle-ci peut jouer un rôle dans cet espace public. Et vous pensez que sa participation à la vitalité de l'espace public est non seulement légitime, mais nécessaire?
Absolument. En tout cas, je me situe là dans la ligne d'un penseur allemand qui s'appelle Jürgen Habermas et qui a conceptualisé, développé cette notion publique, et une notion qui me semble particulièrement féconde pour comprendre justement la manière dont les religions peuvent trouver leur place dans le respect d'un cadre laïque. Et ainsi, contribuer à enrichir la démocratie représentative de délégation, qui est la nôtre, mais qui est aujourd'hui bien essoufflée, par une démocratie de la délibération. Pour Habermas, l'espace public, c'est la place publique d'antan. C'est-à-dire, c'est le lieu où des opinions personnelles peuvent être dites publiquement. Alors, la place publique, dans ce sens-là, cette agora n'existe plus, mais elle peut exister de multiples manières. Hein, quand on fait une conférence et qu'il y a un débat sur des questions de bioéthique, par exemple, c'est un bout d'espace public. Mmh. Et là, des croyants et des non-croyants peuvent exprimer leurs convictions. Et le politique, ceux qui sont au pouvoir, doivent être à l'écoute de ces bouts d'espace public qui sont disséminés. Les médias, d'ailleurs, pourraient jouer un rôle essentiel, que malheureusement, ils ne jouent pas, mais ce serait l'objet d'une autre émission, c'est-à-dire qu'elles n'ouvrent pas le débat, mais elles assènent plutôt des commentaires péremptoires. Et d'une certaine manière, donc, l'espace public peut redonner du souffle à la démocratie. Et d'ailleurs, dans un livre récent, un autre penseur allemand, Hartmut Rosa, explique, c'est le titre de son livre, pourquoi la démocratie a besoin de la religion. Cet espace public est le lieu du débat dans lequel des individus, des familles de pensée, des religions ont leur place. Il permet l'expression et la confrontation de convictions diverses. Mais au-delà de la confrontation, c'est aussi le lieu dans le débat, dans le dialogue, dans la délibération, où par-delà des points de vue particuliers, une société peut élaborer des références communes, des compromis qui permettent de vivre ensemble. Vous savez, le mot compromis, il a mauvaise presse. On dit compromis, compromission. Non, s'il y a deux mots différents, c'est que ce n'est pas la même chose. Compromis, étymologiquement, c'est la promesse de pouvoir tenir ensemble ce que l'on croyait au départ incompatible. Donc il faut construire des compromis, c'est ce que permet l'espace public. Ces compromis qui permettent de vivre ensemble. Les interventions des religions dans l'espace public, c'est-à-dire dans le politique au sens large, peuvent concerner plusieurs champs de préoccupation où elles ont, à mon avis, pleinement leur place et où elles doivent faire entendre leur voix.
Ah, alors, on peut commencer par une première que vous appelleriez comment ?
Alors, voilà, moi j'en verrai quatre. J'appelle la première la vigilance prophétique. La vigilance prophétique. J'ai déjà évoqué le rôle du prophète dans la tradition biblique. Le prophète n'est pas un prédicteur qui dessine l'avenir. C'est un prédicateur qui dit une parole de Dieu pour le temps présent. Et cette parole peut bien sûr bousculer les pouvoirs et les idoles de ce monde. C'est au fond, on dirait aujourd'hui, un lanceur d'alerte, le prophète. Voilà. Mais il le fait à partir de ses convictions croyantes. Le rôle prophétique des religions consiste donc à manifester en parole et en acte une vigilance, voire une résistance, quand la personne humaine est menacée, quand la dignité de la personne est bafouée, quand la vie du monde est en danger, quand la liberté de conscience et de croire sont remises en cause.
Les croyants et les religions, donc, d'une manière plus générale, ont donc ici un rôle de sentinelle citoyen.
Tout à fait. Un rôle de vigilance qui doit s'exercer au quotidien, dès que commence à se mettre en place un processus de violence, avant même que deviennent évidents les traitements cruels, humains, inhumains et dégradants, avant que n'adviennent leurs formes ultimes, que sont par exemple la torture, la mort, la guerre. Il faut discerner parfois dans des petites choses comment est en train de se mettre en place ce continuum inexorable qui partira du mépris quotidien jusqu'à la violence. Une bibliste catholique a écrit un très beau livre qui s'appelle « Tu n'émietteras pas ton frère » où elle montre que le mot « brutalité » en hébreu a pour racine la miette.
Oui.
La brutalité, c'est commencer par discrètement, sans que ça se voie, émietter son prochain. Et cette vocation prophétique implique une loyauté à l'égard des autorités publiques, mais une loyauté critique. C'est un terme qui avait été employé par un des synodes de notre Église. La position du chrétien, à cause de sa double citoyenneté, est une loyauté, mais une loyauté critique.
Ça pourrait aller jusqu'à la désobéissance civile non violente.
Oui, dans le même synode qui avait parlé de loyauté critique, il était dit que cela pouvait aller jusqu'à la désobéissance civile non violente. Alors, bien entendu, quand on arrive à ces positions extrêmes, ça veut dire que ça ne se fait pas tous les jours. C'est pas parce que tout à coup on n'est pas d'accord avec une décision d'un gouvernement qu'on va rentrer en désobéissance civile. C'est là que joue l'autre citoyenneté, c'est-à-dire l'obéissance aux autorités. Mais il y a des cas où on a l'impression que tous les moyens ont été épuisés pour faire avancer le respect de la personne humaine et que là, ça n'avance plus et il peut y avoir des actes de résistance. Finalement, la désobéissance civile, la non-violente, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le délit de solidarité, ce qu'on a appelé la résistance spirituelle à propos de Dietrich Bonhoeffer. Ce qui n'est pas, je le redis, sans risque, ni débat. Des débats à la fois extérieurs avec le politique, parce qu'il va falloir discuter, disputer presque avec lui résister, mais aussi un débat en nous-mêmes, au sein de notre conscience. Et parfois, cette double citoyenneté fait que c'est très douloureux pour le croyant, dont la conscience est parfois déchirée par une double loyauté, la loyauté aux lois de son pays, dont il sait l'importance, mais aussi la loyauté à sa conscience et à ses convictions éthiques qui peuvent amener à transgresser ses lois. Je le redis, ce n'est pas un acte facile, parce que parfois on dit « Ah bah oui, il suffit de… » Non, non, c'est toujours dans des cas limites que l'on se place dans cette situation.
Alors, moi, ça me fait penser, ça nous fait penser ensemble, parce que C'est une association qui nous intéresse de près, à l'ACAT, à l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, par exemple, comme d'autres. Je vous invite à nous retrouver pour une nouvelle émission et nous essaierons concrètement de voir comment la religion et notre foi chrétienne peut avoir des répercussions et des incidences dans le politique, dans la vie sociale. Ce sera une nouvelle émission. Vous êtes d'accord, Michel ?
Oui.
Nous nous retrouvons. À bientôt donc.
À bientôt.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus. Vous pouvez nous retrouver sur le site radioallianceplus.fr en podcast si vous n'avez pas bien entendu l'émission et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien laissez un commentaire. Si vous êtes d'accord, laissez un commentaire également. Des retours nous seront toujours sympathiques. Et je vous dis à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.